Aujourd'hui, c'est le thème de la vie que l'Église, à travers les textes, notamment évidemment ceux d'Évangile, eh bien nous invite à contempler. Nous avons deux femmes ici, à deux âges complètement opposés, la jeune, l'ado de 12 ans, et puis la vieille femme qui est plutôt à la fin de sa vie qu'à ses commencements, elle. Ces deux femmes sont à la recherche du sens de la vie. La plus jeune, parce qu'elle naît à la vie et qu'elle tente de comprendre ce qu'elle peut bien y faire en ce monde. La seconde, parce qu'elle n'a jamais trouvé de réponse à cette question jusqu'à la fin de son existence. Deux femmes à la recherche de ce qui fait la vie, de ce sens, de cette vocation qu'abrite la vie. Car il y a bien une vocation dans la vie. Seuls des incroyants contemplent la vie comme un vide. Mais le Seigneur qui nous a créés a placé dans cette vie qui est la nôtre une vocation, une réalisation à accomplir. Les deux sont sous le signe symbolique du chiffre 12. 12 ans d'écoulement de son sang pour la vieille femme et la jeune fille qui a 12 ans. 12 ans de croissance pour devenir la femme. Parce qu'à 12 ans en Israël, à cette époque, dans l'Antiquité et partout d'ailleurs, eh bien on était une femme. 12 ans, c'est le nombre symbolique de l'accomplissement spirituel des 12 apôtres. C'est le chiffre de l'Église. Oui, c'est le chiffre de l'accomplissement spirituel. Car ce sens de la vie, ce n'est pas uniquement un sens psychologique. On aurait tort de regarder ce passage d'un point de vue strictement psychologique. Et c'est spirituellement qu'il faut le contempler. Le sens de la vie ne peut être donné qu'à ce plan-là. La vie s'échappe de ces deux femmes sous des formes très différentes. La première, la plus âgée, donc l'hémorroïs, voilà, on va lui donner son nom, l'hémorroïs, cette vieille femme, eh bien, elle a des pertes de sang et incontrôlables, et elle aimerait bien que ça s'arrête. La jeune fille, c'est tout le contraire. Il ne sort pas une goutte de sang d'elle. On verra pourquoi. Ce qu'il y a de commun entre ces deux guérisons, c'est le toucher. Il faut que l'hémorroïs touche Jésus. Et Jésus touche la jeune fille, il la prend par la main, et vraiment il y a cette expérience du toucher qui qualifie ces deux guérisons. Ce toucher, ça dénote une rencontre concrète, vous voyez, sensible avec Jésus-Christ. Et vraiment, dans nos vies de croyants, nous avons besoin, lorsque nous perdons ce sens de la vie sans temps, et ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle la nuit obscure, lorsque nous perdons le sens de la vie, eh bien, il faut, soit comme l'hémorroïs, ramper en quelque sorte vers le Seigneur, soit comme la jeune fille, eh bien, attendre l'initiative de Jésus lui-même, attendre avec patience jusqu'au bout, jusqu'à la mort elle-même. Et Jésus, par rapport à ces deux femmes, c'est l'homme par excellence. Il représente justement ce qui éveille la femme en ce monde. Et il y a aussi l'expérience de Marie-Madeleine, chez laquelle le toucher est si important et transformant. Et évidemment, c'est une expérience physique et spirituelle, le toucher de la grâce. Évidemment, ce n'est pas une expérience humaine, elle n'est pas sexuelle, cette expérience. Mais il y a cet éveil de l'âme, l'âme féminine en l'occurrence, eh bien, par la rencontre, et une rencontre très précise, comme un homme rencontre une femme. Mais là, c'est l'homme par excellence que ces femmes, qui avaient vu bien des hommes, en tout cas pour l'hémorroïs dans leur vie, des médecins en particulier, et qui n'avaient guère convaincu sur la vocation et la force de la gente masculine. En voyant le Christ, ces deux femmes comprennent, expérimentent Eh bien, vraiment, ce qu'est le nouvel Adam, ce qu'est celui qui transcende par son amour, par son autorité, par sa force, par sa connaissance sapientielle de la vie, et par le fait qu'il détient la vie, ce qui fait de lui l'homme au-dessus de tous les hommes, eh bien, elle trouve enfin le sens qu'elle cherchait si intensément, qu'elle recherchait au point d'en mourir. La quête de ces deux femmes est une quête qui va jusqu'au bout. Le sens, c'est la vie. Alors, pour l'hémorroïs, on voit bien, elle a un flux de sang qui s'échappe d'elle, donc c'est clair. La vie s'en va. Pour la jeune fille, me direz-vous, eh bien, Jésus, lorsqu'il la ressuscite, lorsqu'il la réveille, comme il le dit lui-même, il demande à ses parents de la faire manger. En d'autres termes, elle était anémiée, elle n'avait plus de sang, entre guillemets. Elle n'avait plus de sang, elle n'avait plus de vie. C'est comme si elle l'avait consumée, comme si elle n'avait, elle était déshydratée du point de vue existentiel. Ça s'était complètement évaporé, la vie, le sang en elle. Et Jésus dit, il faut la faire manger, il faut lui donner donc des valeurs, ces valeurs qui vont structurer la mise en place de l'amour et de la vérité. Il faut lui donner ces valeurs, la faire manger, pour lui permettre de croître et de trouver ses marques en ce monde. Moi, je pense à tous les jeunes qui vivent dans une société où il n'y a plus de valeurs. Eh bien, ce sont des anémiés. Des créatures qui risquent, comme cette jeune fille, eh bien de mourir d'inanition. Et du point de vue spirituel, c'est certain. Mais allez savoir si ça ne sera pas non plus du point de vue humain. Voyez, mais le nombre de dépressions, le nombre de maladies complètement bizarres qui se développent dans la modernité, et la modernité des pays riches, pas celle des pays pauvres. Il y a quelque chose qui est lié toujours entre notre existence bien concrète et la vie spirituelle. Donc le sang, c'est la vie. Mais le sang a une relation aussi avec la pureté rituelle. Dans l'Ancien Testament, le texte de Lévitique et les autres nous précisent eh bien, que pour les femmes, c'est le cas qui nous occupe, lorsqu'elles ont leurs règles, leur menstruation, elles deviennent impures. Elles doivent se purifier, se tenir à l'écart. Donc c'était le cas de l'hémorroïs. Elle était dans un état de continuelle impureté. Donc vous imaginez bien, quand on était impur, on ne pouvait plus fréquenter les autres. Donc ça avait une incidence très concrète sur sa vie, ce flux de sang. Pour elle, elle ne pouvait plus avoir de relations sociales parce qu'elle était impure et que les gens ne pouvaient pas l'approcher sans devenir eux-mêmes rituellement impurs. Et chez les Juifs, ça comptait drôlement, donc elle était complètement isolée. La jeune fille, eh bien, elle est confrontée aussi à l'impureté. On pourrait dire en quelque sorte qu'elle est hantée par l'idée de l'impureté. Elle ne veut surtout pas devenir impure. Et c'est au point qu'elle préfère ne plus avoir de sang plutôt que de voir ce sang s'écouler. Elle a 12 ans, donc elle devient une femme. Eh bien, plutôt que de voir ce sang s'écouler, elle préfère qu'il s'évapore, en quelque sorte. C'est imagé, mais ça veut dire à peu près ça. Elle est hantée, elle aussi, par l'impureté. Et elle qui est au début de sa vie, et l'hémorroïs qui est à la fin de sa vie. Jésus, par rapport à l'impureté qui isole de la relation avec les autres, Dieu est le seul à pouvoir entrer en relation dès lors avec ces personnes, avec ces deux femmes. Parce que Jésus, lui, ne peut pas être souillé, parce qu'il est Dieu, par l'impureté. Mais voyez l'audace de cette femme et la grandeur de sa foi en même temps, l'hémorroïs. Si elle touche quelqu'un, elle le rend impur. Et elle ose toucher Jésus. Mais parce qu'elle sait intérieurement qu'il dépasse complètement le contexte étroit de la loi et rigide et rigoureux de cette loi. Et de fait, une force sort de Jésus. Et de fait, Jésus, eh bien, accueille son geste. Mais c'est pourquoi il demande à la femme de sortir de l'anonymat. Parce qu'il est important, eh bien, que tout le monde constate, eh bien, qu'elle est purifiée. Et qu'elle est purifiée non pas par un rituel, mais qu'elle est purifiée par la foi. C'est la foi qui nous purifie, qui nous permet de retrouver vraiment le sens de la vie. Cette force, j'achèverai avec ça, qui sort de Jésus malgré lui. C'est beau de voir ça. C'est comme si le cœur de Jésus, qui est son amour infini, eh bien, prenait toute liberté, en tout cas dans certaines circonstances, comme ce geste, une supplication anonyme, suppliante, et que la conscience de Jésus-homme pouvait ne pas voir éventuellement, et je dis éventuellement, eh bien, cette force, ce cœur de Jésus, prend l'initiative et guérit cette femme. C'est beau de voir ça. Jésus gouverné par son cœur, Jésus gouverné par son amour. Et c'est bien ainsi. C'est comme ça qu'il faut entrer en relation avec lui, qu'il faut le contempler. Jésus est ainsi. Une force vitale aussi qui purifie tout, en donnant sens à la vie. C'est ce qu'il y a de merveilleux à chaque fois qu'on lit les récits de conversion, par exemple. C'est des gens qui étaient, comme ces deux femmes, torturées par le sens de la vie, une vie qui n'avait pas de sens à leurs yeux, à leur cœur. Et elles cherchaient la vie, parce qu'elles se mouraient dans un monde où il n'y avait pas cet amour auquel elles aspiraient. Et Jésus arrive, et lui, il est réellement cet amour-là, incarné. Et elles le reconnaissent, le toucher, c'est ça, et elles le rencontrent, et elles sont saisies par lui. C'est beau de voir Jésus, et bien là, l'hémorroïse, elle a l'initiative, c'est elle qui touche le Seigneur, Jésus confirme. Mais c'est beau de voir que Jésus prend l'initiative lorsque les personnes ne sont pas assez mûres ou pas prêtes à faire la démarche par elles-mêmes. Jésus va au-devant de la jeune fille et il l'éveille à sa vie de femme. Non pas psychologiquement, je le répète, évidemment, on n'est pas dans une analyse de Françoise Dolto, mais il y a incontestablement quelque chose qui tourne autour du sens de la vie, de la réalisation de cette vocation dont nous sommes porteurs en tant que vivants. Les incroyants disent « la vie n'a pas de sens, jouissons du moment présent et des biens que nous pouvons saisir, fût-ce au détriment des autres, parce qu'après il n'y a plus rien ». Comme ils se trompent et comme c'est triste leur éthique. Réellement. Alors la foi est la condition absolue pour obtenir cette vie merveilleuse qui nous transfigure, qui transfigure tous les convertis, qui transfigure les saints, qui transfigure tous les croyants. Ces deux femmes furent transfigurées à leur façon parce qu'elles la vie fit irruption dans un état mortifère où elles se trouvaient, dans un état d'agonie même où elles se trouvaient. Demandons au Seigneur de ressusciter les hommes par le sens de l'existence, en renouvelant le sens de la vie auprès de ceux que nous rencontrons et pour lesquels nous le prions.